Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Marion Sauveur, on va faire le plein d'énergie avec un fruit exotique.
Et oui, la banane, le deuxième fruit préféré des Français après la pomme, un fruit qui est gourmand, parfait en hiver parce qu'elle est riche en fibres, en minéraux, en vitamines. Elle stimulerait même notre sérotonine, vous savez, l'hormone du bonheur. Et elle nous aide donc à avoir la banane. Mais oui,
c'est cette version des mignons, là, c'est chou comme tout.
Alors la banane aurait en fait son apparition il y a bien longtemps, puisqu'on a retrouvé un fossile d'un bananier en Inde datant de plus de 50 000 ans. Mais la chair du fruit était pleine de pépins à l'époque et donc pas vraiment comestible. Il faut attendre donc sa domestication, c'était il y a 10 000 ans.
C'est le premier fruit. On a parlé de domestication des chiens tout à l'heure, maintenant on parle de domestication de la banane. Donc, on apprend des choses.
Premier fruit cultivé, cette banane en Indonésie donc, et son arrivée aux Antilles, c'est bien plus tard, c'est au 16e siècle. Il faut attendre 2 siècles avant de croquer dans une banane en Europe. Et donc que les techniques de conservation et de transport s'améliorent pour que la banane gagne le cœur des Français. Et on le doit notamment à Joséphine Baker et à sa jupe aux 16 bananes.
Bah oui. Comment ça pousse la banane alors ?
Alors ça pousse sur un bananier qui n'est pas en fait un arbre mais une grande plante herbacée. Et de cette plante va naître une jolie fleur bordeaux. Et de cette fleur, sous ses pétales, on va voir apparaître donc les bananes. Elles poussent en fait en rangée. C'est ce qu'on appelle les mains. On va avoir des mains de bananes. Et c'est pour ça que chaque banane peut être appelée un doigt.
C'est quasiment, c'est symétrique, c'est très beau. Hein,
c'est assez incroyable. Les unes au-dessus des autres comme ça, c'est ce qui va former un régime.
Oui, je m'extasie devant des bananes, mais c'est un régime de petites bananes. Donc c'est pour ça que j'avais déjà vu des bananes dans ma vie quand même.
Et une fois que le régime donc est récolté, la plante ça passe la place à une jeune pousse. Et la banane a une petite particularité comme le brugnon ou le kiwi. Est-ce que vous la connaissez ?
Alors,
non.
Comme le brugnon ou le kiwi.
C'est bon ?
Oui.
Ouais, non, je sais pas.
Alors, c'est un fruit climactérique. Alors, ça veut dire qu'il continue de mûrir une fois qu'on l'a récolté. Donc, on cueille les bananes vertes.
Aussi, bah oui.
Et puis, elles vont continuer de mûrir. Elles vont devenir sucrées, moelleuses.
Climactérique, d'accord.
Climactérique.
Okay. Climactérique, d'accord.
Voilà, exactement. Alors, il existe plus de 1000 variétés de bananes dans le monde.
Sérieux ?
Même une japonaise, la monji, qui se mange avec la peau. Alors, en France, on n'a pas ce genre de banane qui arrive. Mais on en consomme seulement quelques variétés. Est-ce que vous connaissez le nom de cette banane commune ?
La classique.
Voilà.
La jaune. La Cavendish ?
J'ai lu votre
feuille.
Ah. La Cavendish, voilà, cette banane longue à taches brunes. Là, on a les petites, ce sont les fraisinettes.
Ah, elles sont
Et
trop
puis,
mignonnes.
On a une catégorie de bananes à cuire qui s'appelle la banane plantain.
Bah oui. Bien voilà. Sûr. Alors justement, comment on peut la cuisiner, la banane classique
hein ? Alors on a l'habitude de la manger en dessert et pourtant elle peut très bien être cuisinée comme un légume. C'est ce que nous explique la chef Angèle Ferremac de la guinguette d'Angèle à Paris.
On peut faire plein de choses en salé en fait avec la banane. C'est comme apporter une petite touche sucrée finalement. Le pané, la patate douce, la betterave, enfin les légumes racines en général sont très sucrés eux aussi. Donc, on peut la cuisiner un peu de la même façon. Par exemple, si on fait des légumes rôtis au four, on peut rajouter un peu de banane. Moi, j'aime beaucoup la mettre dans des currys, donc avec plein de légumes verts, etc., dans du lait de coco ou la crème d'amande, par exemple. On peut la faire frire, on peut la mettre dans des petits beignets avec de la courgette, des œufs et de la pomme de terre qu'on fera revenir à la poêle. Et puis, elle est délicieuse.
Ouais, elle va apporter une texture moelleuse, très gourmande en fait à vos plats. Je vous propose d'ailleurs de déguster deux plats différents. Vous avez un curry rouge de légumes, riz complet et banane rôtie. Et une soupe
voir, Angèle,
de panais.
Angèle, parce qu'on vient d'entendre Angèle Ferremac, pardon, mais je voulais dire, Julia n'a pas tout fini encore. Hein, c'est bien pour une fois.
Ah ça c'est très très
le
bon.
Curry avec la banane.
Curry. Alors c'est plein de légumes justement, des légumes de saison, c'est ça l'intérêt. Et on peut s'amuser à vraiment traiter la banane comme un légume lambda.
Vous régalez, Julia.
C'est vraiment bon.
Mon curry, c'est bon. Hein.
Oh là là.
Qui a fait ce curry, là ?
Ah, c'est Angèle, justement.
Ah oui, c'est délicieux.
Angèle Ferremac, qu'on peut retrouver à la guinguette d'Angèle.
D'accord. Et elle se cuisine aussi en dessert.
Mais oui.
D'accord. En dessert, la banane, non ?
Il était pourri, votre d'accord.
En dessert, mais aussi pour le petit déjeuner, vous pouvez faire un porridge, par exemple, avec la banane. Vous mélangez ces bananes que vous écrasez à des flocons d'avoine, vous cuisez avec un petit peu de lait, avec des amandes, un petit sirop d'érable par-dessus, et des petites bananes en rondelles, ça va être délicieux. Ça, c'est la soupe, Julia.
Ah, c'est pour ça.
La soupe de panais.
Alors, mais il y a de la banane dedans,
ouais,
donc c'est
c'est pané banane.
Une soupe, enfin, ça ressemble plus à un velouté, non?
Non, mais c'est justement, c'est très consistant parce qu'on a c'est une soupe pané banane. Au petit déjeuner, vous pouvez aussi faire des pancakes. Alors ça, c'est la recette également d'Angèle. Vous mélangez juste deux œufs avec une banane et vous faites cuire. Pas besoin de farine ni rien du tout. Vous faites cuire vos pancakes comme ça. C'est tout simple. Vous rajoutez quelques petites rondelles, c'est assez sympa avec le sirop d'érable. Et moi, j'adore la banane flambée, la banane rôtie qui danse comme ça avec le caramel. C'est juste un délice.
Et les bananas split aussi.
Trop bon.
C'était mon dessert préféré quand j'étais petite.
Les bananas split.
C'est léger en plus.
Avec la chantilly, les boules de glace. Mais c'est ça qui est bon. La banane, elle peut se manger de plein de manières différentes. Puis il y a une recette facile que vous pouvez faire à la maison. C'est un dessert facile, gourmand. C'est le cake à la banane.
C'est trop bon le cake à la banane.
Le banana bread. Donc on commence par mélanger des œufs avec du sucre avant d'ajouter un petit peu de beurre, de la farine, de la levure. Rien de compliqué, vous ajoutez ensuite les bananes écrasées, bien mûres. Plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées, plus elles apporteront du goût à votre cake. Quelques noix concassées, des pépites de chocolat pour la gourmandise. Et puis vous allez cuire dans un moule à cake beurré et fariné. Mais avant de mettre au four, vous allez couper une banane en deux, hop, et vous allez la disposer comme ça sur votre cake. Et comme ça, quand vous allez sortir votre cake du four, au bout de 45 minutes, vous avez un joli cake avec la banane en plein milieu.
Oh, c'est joli en plus. J'en ai déjà fait des bananes à bread, mais jamais avec la banane en déco.
C'est une bonne idée, ça.
Ouais, vous avez envie d'en faire un,
non,
Julien,
du coup.
Il y a plein de bananes, là, du coup.
Bon, en tout cas, ce curry-là avec la banane, c'est délicieux. Il y a de la courge.
Carottes. Vous pouvez vraiment vous amuser avec la banane. Faut pas que la cuisiner en dessert. Faut s'amuser à la mettre dans les plats. C'est comme un légume.
Ouais, c'est super.
Vous avez aimé les filles, Séverine, Elsa?
C'est pas mal du tout. Après, moi, j'aime beaucoup plus en dessert. Notamment les bananes flambées avec un peu d'alcool.
Forcément,
évidemment,
un peu de rhum.
Sinon, c'est pas drôle.
Eh bien, merci Marion. On va retrouver votre recette sur europe1.fr. Merci pour tous vos conseils et cette belle mise en valeur de la banane que vous nous avez proposée ce midi. On va revenir dans un instant avec d'autres très joyeuses tendances. L'éco-sexualité avec Elsa Lévy. Je crois qu'il s'agit de faire l'amour, d'érotiser la nature. Ça a l'air un peu perché comme ça. Mais Elsa, vous nous expliquez tout ça avec les pieds bien sur terre. Et puis, il y aura aussi la chronique de Séverine Pierron consacrée au shifting, une expérience
perché
qui donne...
aussi un peu aujourd'hui.
Un
hein.
peu perché, ouais, qui donne lieu à des tas de vidéos de jeunes sur TikTok. Ce sont des sortes de rêves lucides qui cartonnent sur Internet. Alors pour en savoir plus, restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi et notre séquence tendance se poursuit avec nos trois chroniqueuses, toujours à nos côtés en studio. Avec Marion Sauveur, on a dégusté tout un régime de bananes. Elle nous a surtout donné ses astuces pour sublimer ce fruit chez nous comme un légume. Et maintenant, c'est à vous de sublimer la nature, je crois, Elsa Lévy. On veut tout savoir sur l'éco-sexualité.
Mais oui, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé des fleurs qui auraient un impact sur notre système hormonal. Eh bien, en voulant creuser le sujet, j'ai découvert cette tendance un peu particulière qui est l'éco-sexualité. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de personnes qui déclarent leur amour à la terre en, par exemple, en embrassant les arbres, en se frottant contre de l'herbe, en massant une pelouse avec leurs pieds, en caressant des pierres.
On peut faire des bisous à des bananiers.
On peut faire des bisous à des bananiers. On peut faire ce qu'on veut. On peut chuchoter à l'oreille des arbres ou encore jouir dans une rivière ou à travers le ressac de la mer. Je mets ce morceau parce qu'à un moment, il dit « Le soleil au zénith me surexcite ». Alors peut-être déjà un éco-sexuel était Serge. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans la nature?
On doit répondre, vraiment.
Non, sur le cas, sable, alors.
C'est fréquent. Bah, alors, sur le sable, voilà. Enfin, dans ces moments-là, vous aviez simplement oublié ou pas eu conscience que vous partagiez ce moment avec le foin, si vous étiez dans une ferme, ou avec l'herbe, si vous étiez... Ça gratte, si vous étiez dans un champ, ou avec l'eau, si vous étiez dans la mer. Enfin, ça arrivait à quand même beaucoup de gens. Là, il n'y a rien de fou. Alors après, bien sûr, ça peut prêter à rire. Je vois que vous êtes un peu perplexe, d'ailleurs. Mais figurez-vous que la démarche est loin d'être insensée. C'est même devenu une identité affirmée qui revendique des défendre la planète. Cette tendance a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire sur Arte ou encore d'une émission dans Crac Crac sur Canal+. À l'origine, ce sont deux Américaines artistes et militantes en couple dans la vie comme sur la scène, Elizabeth Stephens et Annie Sprinkle. Selon elles, l'écosexualité signifie que vous trouvez la Terre érotique et que vous la traitez comme un objet d'amour plutôt que comme une ressource exploitable à l'infini. Et l'idée, c'est de célébrer notre point E et de viser le coït vert.
Il est où celui-ci ?
E, c'est Earth.
Ah, ok.
Donc peut-être le point T.
Le point planète, quoi.
Le point T pour la Terre, le point
ouais.
P.
Ouais, le point P, voilà, c'est ça. Okay.
Le point G, le point globe, tout ce qu'on veut. Le point E, donc. La tendance est apparue au début des années 2000 sur des profils de sites de rencontres et le terme écosexuel s'est rapidement développé à travers le monde. Selon le magazine Outside, en 2017, on comptait plus de 100 000 personnes qui se considéreraient écosexuelles alors qu'elles n'étaient que 100 en 2015.
Mais c'est qui ces gens ? Oui. C'est quoi leur réseau,
vous
leur profil ?
Vous en êtes, vous, Elsa, de ce...
Non, j'en suis pas, mais alors selon un... Mais je suis pas à l'abri de devenir, hein, on peut tous devenir écosexuels. Selon un manifeste qu'ont rédigé les deux artistes, la communauté comprendrait sans surprise des naturistes, mais aussi des artistes, des universitaires, des sexologues, des militants écologiques, des entrepreneurs, des thérapeutes, des avocats, des scientifiques, bref,
tout le monde.
Ouais. La communauté se revendique polymorphe et pollen amoureux.
Oh,
C'est joli quand même. Hétérosexuels, homosexuels et LGBTQIA+. Le sigle est de plus en plus précis. En connaissez-vous d'ailleurs toutes les significations ?
Absolument pas. Moi, je connais, moi.
Alors,
c'est lesbienne, gay, bi, trans, intersexe.
Queer, il y a le queer.
Queer, ouais. Intersexe et asexuel.
Ah, et le plus, c'est quoi ?
Et le plus, c'est pour dire ça continue.
Il y a toujours voilà. Mais bravo. Oui, non, mais c'est important quand même d'être à la page.
D'accord.
En tout cas, tous ceux qui rejoignent le mouvement n'ont qu'une devise, hein, c'est de sauver la planète grâce à l'amour.
Donc c'est surtout un mouvement militant, c'est ça ?
Voilà, c'est un mouvement. Alors même si l'écosexualité est une pratique sexuelle réelle ou sensuelle pour certaines personnes, c'est surtout une mobilisation écologique. Le monde de l'art...
Je crois qu'elle fait l'amour avec la banane, Julie. Elle arrête pas de manger.
C'est tellement
et
bon.
Et le bois de sa fourchette.
Vous pensez que je suis écosexuelle ?
Ça a l'air bien parti.
Encore une fois, on n'est jamais à l'abri. Hein. Donc le monde de l'art commence à laisser une place plus importante à cette tendance à travers des expositions, des performances, des films qui veulent nous inviter à repenser notre relation avec la nature, notre façon.
Oula, ça donne quoi un film X écosexuel du coup,
je suis pas sûre de vouloir ça. Et de consommer ces ressources, voilà. Mais si vous êtes encore un peu frileux à cette tendance, il y a d'autres façons de réduire notre empreinte environnementale lors de nos rapports sexuels. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes comme ça ?
Non.
Bah, non, on n'est pas.
Bah, alors un truc tout bête, hein. Par exemple, on nous invite à faire l'amour dans le noir hein, plutôt
ah bah,
que
oui.
d'allumer
ça
la lumière.
Ange. Ça, on connaît, oui.
Voilà, utiliser des draps en coton, éviter les longs rapports sous la douche, privilégier des lubrifiants naturels, des préservatifs vegan en caoutchouc naturel ou encore des sextoys écolo. Okay. Et il y a un collectif qui s'appelle Génération Cobaye qui a écrit les 7 commandements de l'éco-orgasme. Donc c'est pour une sexualité plus responsable. Ça s'adresse plutôt aux moins de 30 ans, mais à titre d'exemple, ça va dire pour ton célibat, un canard sans phtalate, tu choisiras. Des jeux culinaires sans additifs alimentaires, tu feras. Une pénétration sans perturbateur endocrinien, tu testeras, etc. Bon, enfin, une dernière chose qui là s'adresse à toutes les catégories d'âge et hétéro, homo, LGBTQIA+. Sachez que la consommation de films pornographiques sur Internet est l'une des plus polluantes. Donc, selon une étude du Shift Project, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre, soit 92 millions de tonnes de CO2 chaque année, soit autant que le secteur de l'habitat en France. On comprend mieux la démarche des écosexuels et si on devait résumer en quelques mots, ce serait « faites l'amour à la terre et pas la guerre
». Merci beaucoup, Elsa Lévy, pour cette découverte hein, de cette tendance. Donc, franchement, moi, j'avais jamais entendu parler. Je dis pas que vous m'avez convertie, non, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. À présent, je me tourne vers vous, Séverine Pierron, celle qui est toujours à l'affût pour nous des tendances chez les 15-20 ans, on va dire. Alors, celle-là non plus, j'en avais jamais entendu parler. Je dois être trop vieille. Alors, le shifting Kazako.
Alors le shifting, c'est une nouvelle tendance qui a quelques années, peut-être un an ou deux, qui est apparue sur TikTok, donc ce réseau social que vous connaissez, des 15-25, c'est un réseau social sur lequel on poste surtout des vidéos. Mmh. Alors le shifting, de quoi il s'agit ? En fait, selon ces jeunes adeptes, le shifting, ce serait une sorte de voyage mental qui vous fait quitter votre réalité pour en atteindre une autre, et ce uniquement grâce à la puissance de votre cerveau.
Très bizarre.
Voilà. Le shifting, c'est en fait, si vous voulez, c'est une sorte de rêve lucide, c'est-à-dire que vous faites un voyage vers une autre dimension en restant conscient, en fait. Mmh. En fait, il faut juste, c'est juste un autre stade de conscience. En anglais, to shift, ça signifie se déplacer, voyager. Alors, bon, ça a l'air un petit peu fumeux comme ça.
Oui, hein, j'avoue, pas du un petit peu.
Figurez-vous que sur TikTok, le phénomène des ados shifters, ça prend une ampleur dingue.
Ah bon ?
En fait, si vous voulez, c'est à peu près depuis la période du confinement que ce phénomène s'est envolé. C'est vrai que rester toute la journée à la maison bloqué avec ses vieux parents, ça donne plutôt envie de s'échapper mentalement. Et alors, le mot-clé, si vous voulez, Shifting Realities sur TikTok, ça a dépassé les 3 milliards de vidéos vues.
Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces vidéos TikTok de shifting ?
Alors, elle veut shifter.
Elle a envie, je crois.
Là, je shifte devant vous. Je suis à un autre niveau de conscience.
Vous partez où, là ? Vous êtes loin ?
Elle est très, très loin. Ouais. Elle est dans un univers mental qu'elle a choisi. Alors, dans ces courtes vidéos, si vous voulez, les jeunes se donnent des conseils pour atteindre cet état second un peu bizarre. Ils détaillent leurs expériences de shift. Il y a tout un jargon spécifique, comme par exemple la DR. C'est en anglais « desired reality », la réalité désirée, celle qu'on a envie d'atteindre, si vous voulez. Mm-hmm. Et la CR, c'est la « current reality », c'est la réalité actuelle, celle dans laquelle vous êtes en ce moment, celle d'où vous voulez partir, en fait.
Mais concrètement, comment ça se passe ? Je ne comprends pas bien, en fait.
Alors, c'est un peu comme un trip au LSD, mais sans le LSD, en fait.
Ah, c'est mieux pour la santé. Ils font semblant, non ?
Sérieusement, en fait, c'est presque un phénomène d'auto-hypnose.
Ah,
en fait,
voilà.
Y a plusieurs méthodes. Les ados se refilent entre les méthodes. Par exemple, vous pouvez vous allonger. Alors, c'est un peu, si vous voulez, c'est assez proche à la méditation. Vous vous allongez sur votre lit. Mm-hmm. Vous pensez hyper fort à un scénario que vous voudriez voir se réaliser. C'est un peu comme quand vous étiez petit et que vous endormiez, vous rêviez un gros gâteau pour faire des beaux rêves. C'est choisir un peu un scénario, si vous voulez. C'est
très scénarisé. Moi, je vais partir, admettons, aux Seychelles. J'imagine ça, c'est ça ?
Voilà. Et alors, vous pensez très fort à cet objectif. Et après, il y a des techniques. Alors, je ne vous dis pas que c'est scientifique. Hein. Alors, par exemple, il y a compter à l'envers ou réciter l'alphabet. Et en fait, il faut rentrer dans une espèce presque de transe, si vous voulez. Et ceux qui ont réussi à quitter leur réalité pour partir dans le monde d'Harry Potter, par exemple, ils racontent des sortes de flashs blancs, des picotements dans les membres. Alors, ça ne dure que quelques minutes, apparemment, hein, mais ça équivaut à une journée entière dans notre réalité. Hein. Mmh. Une minute de shift, c'est une journée entière. Bon. Alors, évidemment,
c'est pas un peu des mythos, quand même,
alors,
ces gens-là.
Alors, je crois que c'est un petit peu mytho, mais c'est-à-dire que c'est...
Moi, là, je peux vous faire croire que je passe en transe. Là, je shift, attention, je suis en train de shifter les filles, là.
Alors, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais ils sont vraiment à fond, quoi. C'est-à-dire que, c'est assez troublant. Et alors souvent, bon, donc les jeunes, c'est plutôt d'ailleurs des filles, hein, si vous voulez, elles choisissent surtout de partir dans des univers de fantasy, enfin fantasy.
Elles deviennent quoi, des héroïnes
Twilight, Harry Potter, des univers assez proches de tout ça. Et donc, il faut vraiment choisir ce qu'elles appellent un script, en fait, un scénario. Mm-hmm. Si vous voulez, vous racontez votre histoire dans votre tête, même vous pouvez l'écrire, ça peut vous aider, apparemment. Hein. Et vous glissez votre scénario sous votre oreiller, et puis ça va vous aider à shifter, quoi.
Ça fait un peu peur, non ? Il n'y a pas des risques, quand même, de rentrer en transe comme ça.
Alors honnêtement, comme disait Mélanie, ça c'est quand même un petit peu pipeau, je pense. Mm-hmm. Mais si vous apprenez que votre ado est shifter, il n'y a pas grand chose à craindre.
Bah, surtout, ça veut dire qu'il ne prend pas de drogue en tout cas. Ouais.
C'est assez inoffensif. En plus, franchement, je pense que ça relève plutôt de la pensée magique qu'autre chose.
Si ça leur fait du bien, tant mieux. Ouais.
Voilà. Et puis en fait, dans les vidéos, il y a beaucoup qui racontent qu'ils tentent depuis des mois et des mois et qu'ils n'y arrivent pas quand même. Hein, donc c'est assez difficile.
Ils sont moins mythos que les autres, ceux-là. En fait,
voilà.
Hein,
c'est un peu mais moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça crée en fait du lien entre les ados quand même, parce que dans cette communauté virtuelle qui est énorme autour du shift, ils s'échangent des vidéos, ils se racontent leurs expériences.
C'est
alors bon, c'est une manière en fait de dialoguer finalement.
Mais nous, on faisait du spiritisme quand on était petit.
C'est ça. C'est toujours la même histoire, sauf que là, ça se raconte via les réseaux sociaux. Et si vous voulez, ça
crée du lien, ma foi.
Voilà, ça se rapproche aussi d'une autre tendance un peu ésotérique qu'on connaît sur les réseaux sociaux, comme par exemple la néo-sorcière. Vous voyez, ces histoires de. Mais si, la sorcière sur les réseaux sociaux, quand même. Ça fera l'objet d'une prochaine
chronique. Génial, c'est ça, vous ?
Pas du tout.
Ah bon, en tout cas, en conclusion, Zuckerberg, avec son histoire de métaverse, d'univers parallèle, bon, finalement, je crois que les ados, ils n'ont pas besoin de casque de réalité virtuelle pour passer dans une autre dimension. Ils ont juste besoin d'un petit peu de... Voilà. Un petit peu un lit, les réseaux sociaux, TikTok, et c'est bon, ils sont partis.
Bah c'est tellement rigolo, ça. Je vais voir si mon fils, il shift. Comment le savoir ? Je vais l'épier un petit peu. Merci beaucoup, Séverine, pour toutes ces explications. C'est bien. Grâce à vous, on comprend mieux, ou pas, d'ailleurs, nous ados. En tout cas, on sait au moins pourquoi ils sont scotchés devant des vidéos vraiment bizarres parfois. On va pouvoir frimer en leur disant t'es sur une vidéo de shifting ?
Ouais, tu veux qu'on shift ensemble ?
Ouais, grave. Mais grâce à vous, on sait maintenant comment bien l'utiliser. Merci à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Voilà, cette émission touche à sa sa fin, mais on sera de retour bien sûr lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quel sera le programme?
Alors lundi, dans Bienfait pour vous, on va se mettre au vert. On va voir comment les fleurs, les arbres ou même les mauvaises herbes peuvent nous faire du bien dans l'assiette, mais aussi dans la maison.
Et bien d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques si vous en avez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.